1 Jean chapitre 3 versets 11 à 12. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Bonjour à tous, frères et sœurs. Ça fait quelque temps, mais je suis toujours là. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, ça a à voir avec, encore une fois, les choses que l'on traverse aujourd'hui. C'est pour le temps présent, une vérité pour le temps présent et une vérité présente. Et j'oserais même dire quelque chose dont nous avons besoin, ou du moins, si personne n'en a besoin, je sais que moi j'en ai besoin, et donc si je ne peux que m'avantager moi-même par la parole de Dieu aujourd'hui, ça sera quand même ça de gagner. Donc je vous propose à suivre avec moi ma propre méditation de la parole de Dieu et des choses que le Seigneur m'a partagées dans ma marche avec lui. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que il y a une certaine intensité dans l'air aujourd'hui. Et cette intensité, elle n'est pas tant due aux transitions politiques, aux renversements politiques, à toutes ces choses qui se passent sur la scène internationale, des choses que l'on peut voir de nos yeux et entendre de nos oreilles littérales. Mais cette intensité à laquelle nous sommes confrontés, elle est due à quelque chose qui n'est pas visible, mais à quelque chose qui est invisible, mais qui est bien réel, à une progression dans les cœurs des hommes. Et donc, l'intensité spirituelle des derniers jours que nous ressentons, elle précipite les hommes d'un côté ou de l'autre du spectre de notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Elle précipite les hommes soit vers l'obéissance à la loi de Dieu, soit vers la désobéissance et l'apostasie. Mais l'intensité spirituelle elle-même, que l'on peut ressentir, mais qu'on ne peut pas nécessairement voir, eh bien, elle-même, elle ne peut pas nous précipiter à l'obéissance à Dieu. Mais elle peut jouer comme quelque chose qui viendra déclencher, un déclencheur dans nos affections vis-à-vis de la relation que nous entretenons avec Dieu à travers sa parole. Parce que c'est impossible d'entretenir une relation, quelle qu'elle soit, avec Dieu sans notre attachement à sa parole. Parce qu'il nous parle, il nous fait connaître sa volonté dans cette parole. Et en dehors de cette parole, nous sommes sujets au vent et aux aléas des pensées, des traditions et des idées des hommes. Mais donc cette intensité spirituelle à laquelle on assiste, eh bien, Jésus l'a exprimé. Et c'est un passage vers lequel je reviens souvent dans le besoin que je ressens de comprendre les événements présents et ma propre expérience. Et vous allez pour cela dans Matthieu chapitre 24, versets 11 et 12. Verset 12, c'est ce qui nous intéresse, mais vous verrez que la raison pour laquelle le monde se trouve dans la condition dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est parce que il a été enseigné, il a été détourné, ou faute d'enseignement, tout simplement. Et aussi parce que il y a eu temps, verset 11, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il y a eu tant de faux prophètes que les gens sont dégoûtés. Dégoûtés. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu, de la vie de Jésus-Christ. C'est... Non, parce que ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. De la même manière que les hommes l'avaient fait à la Révolution française. Ils ont jeté la religion de la Bible avec les traditions et superstitions de la papauté. Ils ont tout jeté. Ah, on n'en veut plus. C'est fini, ça. On passe à autre chose. Bon, maintenant, on est dans la démocratie, vous comprenez? Et verset 12, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. » Et ici, il parle de personnes qui croient en lui, de ses disciples professants, la charité de beaucoup de croyants, de chrétiens se refroidira. Pourquoi ? Parce que l'iniquité, elle est multipliée. Et qu'est-ce que c'est l'iniquité ? C'est une attitude qui n'a pas d'égard à la loi de Dieu. Vous connaissez cette expression « sans foi ni loi ». Eh bien, on ne peut pas avoir de foi sans la loi de Dieu. Et donc, parce que il y a un tel mépris de la loi de Dieu, j'entends les 10 commandements de Dieu, eh bien, cela pousse, cela entraîne comme une vague déferlante à un mépris pour la loi de Dieu, à un mépris pour les exigences de Dieu. Et la conséquence pour les personnes qui se veulent attacher aux 10 commandements, eh bien, c'est que puisqu'ils y sont si attachés et qu'ils ont un orgueil qui est impliqué, qui est engagé, eh bien, ils et nous, frères et sœurs, c'est notre danger, nous nous rattacherons aux formes de cette loi, à une obéissance extérieure, mais comme c'est écrit dans 2 Timothée, je crois, chapitre 3, en reniant la force de la piété. Nous serons attachés au formalisme, nous resterons attachés aux formes, aux cérémonies qui nous sont prescrites par la loi de Dieu, comme notamment le sabbat, comme notamment notre dégoût des idoles, du moins de visu, ou notre attachement au fait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, mais simplement de manière superficielle, mais au cœur, nous sommes en danger que l'iniquité qui est multipliée fasse que notre amour se refroidit. Et quel amour ? Parce qu'il écrit ici, je le relis, la charité, ou ce qui veut dire l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour pourquoi ? L'amour pour qui ? Et vous voyez, avant que nous allions vers cela, au verset 13, « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, il y a des personnes qui sont refroidies dans leur amour à cause de cette iniquité dans le monde, multipliée. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin à travers ce monde apostat, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a ces personnes qui auront, malgré tout cela, persévéré jusqu'à la fin. Et ceux-là seront sauvés. Et comment, qu'auront-ils fait pour persévérer ? Quel est l'opposé de cela ? Eh bien, eux, ils auront préservé leur amour. Préservé leur amour. Mais quel amour ? Vous allez maintenant dans Matthieu, Chapitre 22. De quel amour s'agit-il que nous avons besoin de préserver, que nous, cette flamme que nous devons garder allumée, qu'elle ne soit pas refroidie, qu'elle ne soit pas éteinte? Quel est cet amour? Dans Matthieu chapitre 22 et verset 36. Donc il y a un docteur de la loi qui est venu interroger Jésus, je vous épargne les détails. Et verset 36, il lui demande, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, quel est cet amour dont il est question et qui serait tant à risque dans les derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, au sujet desquels Jésus a prophétisé? Ici, Jésus nous dit que toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements qui résument les deux tables des 10 commandements. Et ces deux commandements, c'est le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier qui résume la première table. Et le second qui lui est semblable est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, notre attachement, notre obéissance à la loi de Dieu, elle ne peut, en harmonie avec les paroles de Jésus ici, elle ne peut pour être véritable qu'être le résultat en découlant directement de notre amour pour Dieu et de notre amour pour notre prochain. Notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain sont à la base de notre obéissance à toute la loi de Dieu. Et donc dans ces derniers jours, il y a l'iniquité qui est multipliée, à savoir un mépris général pour la loi de Dieu, c'est ce que cela veut dire, l'iniquité. Et parce que le monde méprise la loi de Dieu, eh bien l'amour de plusieurs, cet amour qu'ils ont pour Dieu, par lequel ils manifestent leur obéissance à sa loi, il est refroidi. Pourquoi il est refroidi? De manière concrète. Parce que vous devez faire face à une société qui a mis en rebut ce concept, cette idée seule qu'il existe un Dieu à qui il faut obéir. Et sans même parler du fait qu'il a une loi. Et donc cette atmosphère qui est épaisse, eh bien, parce que nous devons continuer, nous ne sommes pas des ermites, nous sommes appelés à être, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Jésus nous a appelé ses enfants, ses disciples, à rester dans le monde. Et comme il disait dans Jean chapitre 17, dans sa prière adressée au Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il a dit au Père, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les garder du monde et du malin. Et donc, parce que nous sommes encore dans le monde, nous devons fréquenter les personnes du monde et être pour elles le sel de la terre. Mais combien cela devient une tâche compliquée et combien le danger est grand pour nous de perdre notre amour pour Dieu. Parce que tant de personnes n'en ont, pour ainsi dire, rien à faire. Et donc, c'est pour cela que nous avons maintenant, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui, nous avons dans l'histoire de la chute de Caïn une illustration du danger qui guette le peuple de Dieu en ces temps-ci, en ces derniers temps où l'iniquité s'est multipliée et où la loi de Dieu est systématiquement méprisée et violée. Ça se trouve dans Genèse chapitre 4, nous l'avions vu la dernière fois, où nous avions contemplé ensemble ce sujet de l'esprit de Caïn. Et si nous reprenons dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 8, donc nous connaissons bien l'histoire. Abel et Caïn se sont présentés à l'Éternel, et Abel a offri à Dieu une offrande qui lui a été agréable. Il a offert à Dieu une offrande qui représentait les mérites d'un autre que lui. Il a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau, verset 4, et de leur graisse. Et l'Éternel lui égare à Abel et à son oblation. Mais nous savons que Caïn, lui, est venu avec une oblation qui n'était pas acceptable parce qu'il a présenté des fruits de la terre, mais il n'a pas présenté d'animal pour sacrifice. Un animal qui était censé préfigurer le Rédempteur promis. Caïn n'est pas venu à Dieu en lui présentant la propitiation du sang de Jésus-Christ à travers le type, à travers un agneau, mais il est venu présenter à Dieu ce qui d'ailleurs faisait partie des prescriptions de la loi mosaïque, c'est-à-dire que par-dessus l'offrande d'un animal sans tache, les personnes devaient aussi offrir en offrande supplémentaire des fruits de la terre. Mais ce n'était pas l'offrande principale. Mais Caïn est venu offrir cela comme une offrande principale. Voilà, c'est cela que je t'offre, Seigneur. Et Dieu n'a pas eu égard à son oblation. N'a pas eu égard à Caïn, verset 5, ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Comme nous l'avions vu la dernière fois. Et Caïn est allé ensuite, après toutes ces tergiversations, fonder une ville. Et nous avions vu donc pourquoi c'était dangereux de résider dans les villes, parce que c'est le premier homme à avoir tué, le premier meurtrier. C'est cet homme-là qui a fondé la première ville. Mais ici, il y a quelque chose d'autre qui est aussi le sujet de cette méditation présente, c'est que vous allez verset 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et Caïn répondit, « Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Et l'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et donc si nous essayons de faire le lien avec ce que nous venons de voir, vis-à-vis des paroles de Jésus concernant la loi de Dieu et ce qui résume, ce qui va caractériser notre attachement à la loi de Dieu, et bien ici vous voyez que Caïn avait déjà montré le peu d'amour qu'il avait pour Dieu par l'offrande qu'il a présentée à Dieu. Donc Caïn a montré qu'il n'avait peu d'égard pour la première table de la loi de Dieu. Et il a mené sa désobéissance à son terme en montrant qu'il n'avait pas non plus d'amour pour son prochain. Hein? C'est ce que Jésus avait dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est impossible d'aider notre prochain comme nous-mêmes si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Hein? J'ai souvent entendu, on m'a souvent dit ça, on m'a jeté cela à la figure. Hein? J'ai commencé ma marche avec Dieu, j'étais complètement confus par tous les messages contradictoires, à la fois dans le christianisme et dans la relation du christianisme au monde. Et on me disait souvent, mais il n'y a pas écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Sauf que les personnes qui disent cela, qui aiment bien utiliser ces paroles qu'ils connaissent à peu près, eh bien, ils semblent vouloir sans cesse oublier le premier appel du Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Non, mais on veut juste utiliser des petites choses, les sortir de leur contexte pour les jeter à la figure des personnes qui n'ont pas encore les pieds fermement ancrés dans la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur a permis que ces choses me soient jetées à la figure. Mais au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que, en fait, dès qu'on connaissait un peu de la parole de Dieu, on pouvait fermer la bouche de ceux qui ne lisent pas sa parole avec révérence. Et donc, pour revenir à notre sujet, Caïn, il a fini par mener sa désobéissance à son terme en tuant son frère. Et la question, plus ou moins rhétorique, qu'il a posée à Dieu quand Dieu lui a demandé où était son frère Abel, la question que Caïn a posée, elle exprimait la condition spirituelle de quelqu'un qui a perdu son premier amour. Donc on ne sait pas vraiment s'il en avait un, s'il avait eu un premier amour, mais on peut supposer que ces choses ont pris du temps, de la manière qu'elles prennent pour nous du temps. Cela prend du temps de former un caractère qui pousse à de tels agissements. De la même manière que, comme nous le lisons dans le livre Patriarches et Prophètes, cela a pris du temps à Lucifer avant qu'il mûrisse dans sa rébellion vis-à-vis du gouvernement et de l'autorité de Dieu. Et donc, cette question de Caïn, suis-je le gardien de mon frère, moi, elle vient, pour ainsi dire, nous aider dans ce qu'elle implique et dans ce qu'elle nous révèle sur nous-mêmes. Et tout particulièrement dans ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, où nous sommes confrontés plus à nous-mêmes, en fait, qu'aux événements. Les événements viennent nous révéler à nous-mêmes parce qu'ils viennent déclencher en nous ce qui était sous-jacent et peut-être endormi, mais qui était bien présent et que Dieu avait pour dessein de nous montrer. Et donc j'aimerais vous partager des citations que je trouve très significatives. Vous avez ici le processus d'apostasie qui est exprimé dans le livre « Our High Calling » à la page 347 et au paragraphe 3 à 5. Le processus de l'apostasie commence par une rébellion secrète du cœur contre les exigences de la loi de Dieu. Des désirs impurs, des ambitions interdites sont nourris et assouvis, et l'incrédulité et les ténèbres séparent l'âme de Dieu. Si nous ne vainquons pas ces maux, ce sont eux qui nous vaincront. Des hommes qui ont longtemps marché sur le chemin de la vérité seront mis à l'épreuve par des épreuves et des tentations. Ceux qui prêtent attention aux suggestions de Satan et qui s'écartent de leur intégrité entament le chemin descendant et une tentation magistrale les précipite dans la voie de l'apostasie jusqu'à ce que leur descente devienne marquée et rapide. C'est en défait de la crainte de Dieu et de leur allégeance à sa loi, les péchés qui leur étaient autrefois répugnants deviennent attrayants. Ils les acceptent et les pratiquent. Mais même les plus agréables commencements dans la transgression se termineront dans la misère, la dégradation et la ruine. Il nous faut être constamment sur nos gardes, veiller et prier pour ne pas entrer dans la tentation. Tout ce qui nous sépare d'une relation intime et sacrée avec Jésus met notre âme en danger, que ce soit l'orgueil spirituel, les désirs impurs ou les mauvaises pensées. Nous devons avoir une foi vivante en Dieu. Si la pensée même de l'apostasie vous est insupportable et que vous ne voulez pas devenir les ennemis de la vérité, alors ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Elle cite Romains chapitre 12, verset 9. Donc vous voyez ici, ce qui nous est présenté, c'est le processus de l'apostasie qui commence par une rébellion secrète du cœur contre les exigences de la loi de Dieu. Donc Caïn lui-même est devenu un apostat complet. Mais ce processus de son apostasie a commencé par une rébellion secrète du cœur contre les exigences de la loi de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que nous trouvons écrit même dans le livre Patriarches et Prophètes où il nous est révélé que Caïn murmurait dans son cœur. Il est venu à Dieu avec les murmures dans son cœur quand il est venu présenter son offrande à Dieu qui ne pouvait être acceptable et qui s'est avéré être inacceptable et inaccepté de Dieu. Et donc c'est la même chose, on nous dit ici des désirs impurs, des ambitions interdites sont nourries et assouvies, ça commence comme cela. Et l'incrédulité, et puis en conséquence, l'incrédulité et les ténèbres séparent l'âme de Dieu. Donc nous avons quelques indices ici. Je descends et je trouve tout ce qui nous sépare d'une relation intime et sacrée avec Jésus met notre âme en danger, comme quoi, elle dit, que ce soit l'orgueil spirituel, les désirs impurs ou les mauvaises pensées. Et comme c'était écrit juste avant, si nous ne vainquons pas ces maux, ou si nous ne les surmontons pas, de la même manière que Dieu avait appelé à Caïn à dominer sur le péché qui était maintenant tourné vers lui et qui était comme à sa porte parce qu'il lui avait ouvert la porte de son cœur, eh bien si nous ne vainquons pas ces maux, comme des désirs purs qui ont été nourris, des ambitions interdites qui ont été assouvies, eh bien ce sont ces maux-là qui nous vaincront. On nous prévient ici que même des personnes qui ont longtemps marché sur le chemin de la vérité seront mises à l'épreuve par des épreuves et des tentations. Et dès que nous entamons le chemin descendant, et en nous les écartant de notre intégrité, il y aura toujours une tentation magistrale pour nous précipiter dans la voie de l'apostasie. C'est pour ça que nous sommes appelés à la pensée même de l'apostasie nous est insupportable et que nous ne voulons pas devenir les ennemis de la vérité, Nous sommes appelés à avoir le mal en horreur. Comment? En nous attachant fortement au bien. Et maintenant, j'aimerais vous partager encore une fois une autre déclaration de l'esprit de prophétie qui vient jeter la lumière sur cette condition qui est un danger pour nous dans Testimonies for the Church, volume 5, page 458, paragraphe 2. Afin d'échapper au service militaire pendant la guerre, certains hommes se sont rendus eux-mêmes malades. D'autres se sont mutilés pour être rendus inaptes au service. Voici une illustration de la voie que beaucoup ont choisie par rapport à la cause de Dieu. Ils ont paralysé leurs facultés, tant physiques que mentales, de telle sorte qu'ils sont incapables d'accomplir le travail pourtant si nécessaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'esprit de prophétie ici est en train de comparer des personnes qui se sont eux-mêmes mutilées pour être rendues inaptes au service, et que certains ont fait exactement cela vis-à-vis de l'œuvre de la cause de Dieu. Je poursuis. Supposez qu'une somme d'argent soit placée entre vos mains pour être investie dans un certain but. La jetteriez-vous en déclarant que vous n'êtes plus responsable de sa bonne gestion? Auriez-vous le sentiment de vous être épargné une grande peine? Donc c'est un non-sens qu'elle nous présente ici. On ne ferait jamais cela, mais elle continue, c'est pourtant ce que vous avez fait avec les dons de Dieu. S'excuser de travailler pour les autres sous prétexte d'incapacité, alors que vous êtes tout absorbé par les activités du monde, c'est se moquer de Dieu. Des multitudes sont en train de se perdre. Les personnes qui ont reçu la lumière et la vérité ne sont qu'une poignée à résister à toute la multitude du mal. Et pourtant, cette petite compagnie consacre ses énergies à tout et à n'importe quoi, sauf à apprendre comment elle peut sauver des âmes de la mort. Est-il étonnant que l'Église soit faible et inefficace? Que Dieu ne puisse faire que très peu pour son peuple? Ils se placent eux-mêmes là où il lui est impossible de travailler avec eux et pour eux. Osez-vous continuer ainsi à ignorer ces exigences? Allez-vous continuer à vous moquer des charges les plus sacrées du ciel? Direz-vous avec Caïn, suis-je le gardien de mon frère, moi? N'oubliez pas que votre responsabilité se mesure non pas par vos ressources et vos capacités actuelles, mais par les facultés qui vous avaient été conférées au départ et par les possibilités d'amélioration. La question que chacun doit se poser n'est pas de savoir s'il est maintenant inexpérimenté et inapte à travailler dans la cause de Dieu, mais comment et pourquoi il se trouve dans cette condition et comment il peut y remédier. Dieu ne nous dotera pas surnaturellement des qualifications qui nous manquent, mais tandis que nous exercerons les capacités en notre possession, il travaillera de concert avec nous pour accroître et renforcer chaque faculté. Nos énergies dormantes se réveilleront et les forces qui ont longtemps été paralysées recevront une nouvelle vie. Donc le Seigneur ici nous présente une condition spirituelle où nous avons présenté le prétexte de notre incapacité pour ne pas travailler dans la cause de Dieu. Mais Dieu ici nous dit qu'il n'est pas tant question de savoir si nous sommes inexpérimentés, mais de savoir pourquoi nous sommes inexpérimentés. Et la raison qui nous est donnée, c'est que c'est dû à un manquement de notre part d'avoir mis en exercice les facultés qui nous avaient été conférées au départ et les possibilités d'amélioration. Et je continue à la page 460 au paragraphe 3. À chaque époque, les disciples de Christ ont toujours dû faire preuve de vigilance et de fidélité, mais maintenant que nous nous trouvons au bord du monde éternel, en possession de telles vérités, avec une si grande lumière et chargé d'une œuvre si importante, nous devrions redoubler de zèle. Chacun doit faire tout en son pouvoir. Mon frère, vous risquez votre propre salut si vous restez en retrait maintenant. Dieu vous appellera à rendre des comptes si vous échouez dans la tâche qu'il vous a confiée. Avez-vous une connaissance de la vérité? Donnez-la aux autres. Que puis-je dire pour réveiller nos églises? Que puis-je dire à ceux qui ont joué un rôle important dans la proclamation du dernier message? Le Seigneur vient, entre guillemets, devrait être le témoignage rendu, non seulement par les lèvres, mais par la vie et par le caractère. Mais beaucoup de ceux à qui Dieu a donné la lumière et la connaissance, des talents d'influence et de moyens, sont des hommes qui n'aiment pas la vérité et qui ne la pratiquent pas. Ils ont tellement bu à la coupe enivrante de l'égoïsme et de la mondanité qu'ils sont devenus ivres des soucis de cette vie. Mes frères, si vous continuez à être aussi oisifs, aussi mondains, aussi égoïstes que vous l'avez été, Dieu vous laissera certainement de côté et choisira ceux qui sont moins soucieux de leur propre personne, moins ambitieux pour les honneurs du monde et qui n'hésiteront pas à aller comme leur maître hors du camp en portant son opprobre. L'œuvre sera confiée à ceux qui la prendront, à ceux qui l'apprécieront, à ceux qui en tissent les principes dans leur expérience quotidienne. Dieu choisira des hommes humbles qui cherche à glorifier son nom et à faire avancer sa cause plutôt qu'à s'attirer les honneurs et à se faire valoir. Il élèvera des hommes qui n'ont pas tant de sagesse mondaine, mais qui sont en lien avec lui et qui chercheront la force et les conseils d'en haut. Et oui, ça fait mal. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le genre de conseils que je veux vous partager. C'est les conseils que Dieu m'a présentés. Et c'est tranchant, n'est-ce pas? Et c'est ces choses que nous avons besoin de prendre à cœur. Nous avons maintenant que nous nous trouvons au bord du monde éternel, n'est-ce pas? Et que nous sommes en possession de telles vérités, comme celle du message des trois anges, possédant une si grande lumière et étant chargé d'une œuvre si importante, nous devrions redoubler de zèle et pas nous tenir en retrait, pas en ces moments-là. Comme elle dit ici, mon frère, vous risquez votre propre salut si vous restez en retrait maintenant. Dieu vous appellera à rendre des comptes si vous échouez dans la tâche qu'il vous a confiée. Il est des fois, frères et sœurs, où la tâche que Dieu nous confie, elle n'est pas agréable. Hein, elle semble sans gloire, elle semble sans réel profit, vous comprenez? Et c'est tout particulièrement en ces moments-là confronté à un tel amer devoir que nous risquons notre salut si nous restons en retrait. Vous avez un exemple dans la parole de Dieu d'une personne qui a voulu se tenir à l'écart, se mettre en retrait face à un appel de Dieu. Cette personne, ce n'est autre que Jonas. Hein, Dieu a dit à Jonas, il faut que tu ailles à Ninive, que tu prêches à Ninive, que dans 40 jours, la ville sera détruite. Et Jonas, il distinguait, il discernait que il allait avoir quelque chose qui allait se passer s'il faisait ça. Il savait, il ressentait, parce qu'il connaissait le caractère de Dieu, que s'il prêchait à Ninive, les habitants de Ninive se détourneraient de leur mauvaise voie et sa propre réputation à lui serait mise en cause, ou du moins il avait un égard trop important pour sa propre réputation qui fait qu'il ne voulait pas faire vraiment accomplir la mission de Dieu. Parce qu'il ressentait qu'il n'en retirerait aucune gloire. Hein? C'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que d'autres prophètes dans la parole de Dieu auraient pu avoir cette même réponse. Mais c'est Jonas qui nous est présenté comme la personne qui a répondu d'une telle manière en réponse à un appel solennel de Dieu. Hein, vous penseriez que un appel à proclamer la destruction à une ville païenne aurait été quelque chose de glorieux en perspective, mais pour Jonas, ça n'était pas glorieux si il y avait de la place pour la repentance. Et donc, dans notre... Là, je réfléchis ici, je médite la parole de Dieu. Dans notre appel à œuvrer dans la cause de Dieu, quel que ce soit, comme je vais le lire après, qu'est-ce que ce soit, même si nous n'avons qu'un seul talent, eh bien, il nous incombe de réfléchir la raison, si telle a été notre expérience, la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu faire la volonté de Dieu, pas voulu nous impliquer en harmonie avec l'appel de Dieu et avec notre devoir d'exercer les facultés qui nous ont été confiées au départ et toutes les possibilités d'amélioration qui y étaient jointes. Donc il y a écrit, avez-vous une connaissance de la vérité, hein, frères et sœurs? La question se pose, avons-nous une connaissance de la vérité? Donnez-la aux autres. Hein, c'est très compliqué, ça, c'est pas compliqué du tout en fait. C'est que en ces derniers temps, eh bien, vous êtes confrontés, comme nous l'avons vu précédemment, à une iniquité multipliée dans le monde, mais en même temps, en tant que croyants en Jésus-Christ, eh bien, nous demeurons tout de même la lumière du monde, même quand le monde, et encore plus, à plus forte raison, quand le monde est plongé dans les ténèbres morales. Mais c'est à ce moment-là où les ténèbres sont si épaisses que cela menace notre propre lumière intérieure qui est censée être Christ en nous, l'espérance de la gloire, ou la présence et l'intercession intérieure du Saint-Esprit qui nous communique Jésus. Et donc elle dit, le Seigneur vient, entre guillemets, le Seigneur vient, ce message-là devrait être le témoignage que nous rendons non pas seulement par nos lèvres, mais par notre vie et par notre caractère. Pas simplement par mes lèvres. Il faut que ma vie et mon caractère rendent ce témoignage que le Seigneur vient. Mais elle nous dit, je continue, je relis, hein, mais beaucoup de ceux à qui Dieu a donné la lumière et la connaissance, des talents d'influence et de moyens, sont des hommes qui n'aiment pas la vérité. Hein, cela revient à ce que nous regardions plus tôt. Quel amour ! L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Mais ici, vous avez des personnes qui n'aiment pas la vérité. Hein, si je n'ai pas aimé Dieu, et en conséquence que je n'ai pas aimé mon prochain non plus, parce que je ne peux pas aimer mon prochain si je n'aime pas Dieu, si mes affections ne sont pas attachées à Dieu, eh bien, si je n'aime... dans ce cas, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et elle nous dit, il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité, qui ne la pratiquent pas. Est-ce que j'aime la pratiquer? Est-ce que j'aime, pardon, la vérité au point de la pratiquer? Ils ont tellement bu à la coupe enivrante de l'égoïsme. Hein, tiens, on n'aurait pas pensé que l'égoïsme, c'était comme une coupe enivrante, un peu comme, vous savez, la grande Babylone la Grande. Nous savions que Babylone la Grande, elle enivrait les nations du vin de sa fornication, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Babylone, avec ses superstitions, ses doctrines dans tous les sens, il y a quoi? Il y a l'égoïsme. Ils ont tellement bu à la coupe enivrante de l'égoïsme, donc moi, et de la mondanité, qu'ils sont devenus ivres des soucis de cette vie. Mes frères, dit-elle, si vous continuez à être aussi oisifs, aussi mondains, aussi égoïstes que vous l'avez été, Dieu vous laissera certainement de côté et choisira ceux qui sont moins soucieux de leur propre personne, moins ambitieux pour les honneurs du monde et qui n'hésiteront pas à aller comme leur maître hors du camp en portant son opprobre. Hein? Jonas était... quoi ? Soucieux de sa propre personne. C'est pour ça qu'il est parti pour Tarse, je crois, ça se dit en français. Il a fait un long voyage loin de son appel. Mais Dieu, si nous ne sommes pas ces personnes, si nous ne décidons pas d'être ces personnes, Dieu se choisira ceux qui sont moins soucieux de leur propre personne, moins ambitieux pour les honneurs du monde, et, c'est important, et qui n'hésiteront pas à aller comme leur maître hors du camp en portant son opprobre. Aller hors du camp, c'est un peu comme être aux yeux du monde un anathème. Aller hors du camp, c'est ne recevoir aucun honneur. Hein, nous voyons Jésus comme allant vers le Golgotha comme quelque chose de très glorieux, mais ce n'était pas glorieux du tout. Le principe même d'être crucifié en dehors de Jérusalem, et c'était un signe d'opprobre. Vous comprenez? Et il nous faut être prêts à aller comme lui, comme Jésus, hors du camp, en portant son opprobre. Que je ne sois pas aussi soucieux de ma propre personne, pas aussi ambitieux pour les honneurs du monde. Hein, nous disons peut-être, non, mais les honneurs du monde, c'est pas si important pour moi, mais peut-être... si nous avons si allègrement bu à la coupe enivrante de l'égoïsme et de la mondanité, et peut-être que les honneurs du monde, en fait, nous y sommes attachés et nous en dépendons pour notre sentiment, notre sensation de bien-être. C'est ce que nous sommes appelés à considérer. Voilà. Il élèvera des hommes qui n'ont pas tant de sagesse mondaine, mais qui sont en lien avec lui et qui chercheront la force et les conseils d'en haut. Je continue à la page 461, au paragraphe 2. Il existe de nombreux départements dans l'œuvre. L'homme qui n'a qu'un seul talent, hein, j'en parlais juste avant, l'homme qui n'a qu'un seul talent, imaginez, vous n'avez qu'un seul talent, vous vous dites, ça vaut rien ça, allez, je le cache. Vous comprenez la mentalité? Il existe de nombreux départements dans l'œuvre. Hein, on se dit, ouais, moi je suis pas pasteur, moi je suis pas évangéliste, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça, donc bon, allez, je l'enterre. Et oui, frères et sœurs, moi je vous cache rien là. C'est le gros danger maintenant. Il se peut même que ça, c'était en suspens entre vous. Vous disiez, ouais, j'aime le Seigneur, mais après, il y a ces événements de la fin des temps et vous dites, ah, c'est bon. Ça y est, là. Eh bien, non. Le Seigneur nous dit, l'homme qui n'a qu'un seul talent ne devrait pas l'enterrer dans la terre. Il n'en a qu'un seul. Que doit-il faire avec un seul talent? Il n'en a qu'un seul. Dieu a donné à chaque homme son œuvre selon ses capacités. Ceux à qui l'on a confié de plus grandes charges et de plus grandes capacités ne devraient pas essayer de faire taire les autres qui sont moins capables ou moins expérimentés. Vous voyez, écoutez ici, frères et sœurs, avec moi. Moi, je trouve que c'est important parce que Dieu ici fait des revendications en faveur de ceux qui sont moins favorisés. Regardez un peu la manière dont ça se trame. Ceux qui n'ont qu'un seul talent peuvent atteindre une classe de personnes que ceux qui en ont deux ou cinq ne peuvent approcher. Vous comprenez? Donc un talent, ce n'est pas si misérable que cela. Parce que, comme l'esprit de prophétie nous dit autre part, il y a des endroits, il y a des personnes que le pasteur ne pourra jamais atteindre. Le pasteur a beaucoup de talents. Il peut avoir 2, 3, 4, 5, 10 talents. Des fois, les pasteurs ont de nombreux talents. Vous vous dites, mais il est trop talentueux, cette personne-là. Ah, moi, c'est rien. Moi, j'ai rien. Pourquoi je suis là même? Hein? Non, Dieu il dit, ceux qui n'ont qu'un seul talent peuvent atteindre une classe de personnes que ceux qui en ont deux ou cinq ne peuvent approcher. Et là, vous vous dites peut-être, hein, je réfléchis avec vous là, je médite la parole de Dieu en réfléchissant. Vous vous dites, mais, ouais, non, mais de toute manière, les gens, ils veulent pas m'écouter. Donc, j'ai un talent et je peux atteindre des personnes que les autres ne peuvent pas atteindre, mais les personnes que je peux atteindre, que les autres ne peuvent pas atteindre, ils ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Mais là, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, parce que moi-même, j'étais encouragé, ayant longuement réfléchi à cela, même si nous vivons à quelques heures de la fin du temps de grâce, nous sommes quand même appelés à être la lumière du monde. Nous sommes quand même appelés à être le sel du monde. Le Seigneur veut quand même faire de nous ses représentants, même s'il n'y a personne qui recevra le message. Cela lui est quand même agréable si nous faisons sa volonté, même si personne n'est enclin à écouter cette parole ou à aussi faire sa volonté avec nous. C'est important que nous prenions cela à cœur. Que nous prenions cela à cœur, parce que sinon, vous allez être complètement découragé si vous ne l'avez pas déjà été. Je continue. Les grands, comme les petits, sont des vaisseaux choisis pour porter l'eau de vie aux âmes assoiffées. Ne laissez pas ceux qui prêchent la parole poser leurs mains sur le plus humble des ouvriers en lui disant « Vous devez travailler de cette façon » ou ne pas travailler du tout. Bas les pattes, mes frères. Laissez chacun travailler dans sa propre sphère, avec sa propre armure, en faisant tout ce qu'il peut faire à son humble manière. Renforcez ses mains dans son travail. Voilà ce que le Seigneur dit vis-à-vis des personnes qui n'ont qu'un seul talent. Hein, il ne parle pas des personnes qui sont très talentueuses ici. Il parle des personnes qui n'ont qu'un seul talent. Il dit, ne laissez pas ceux qui prêchent la parole poser leurs mains sur le plus humble des ouvriers, hein, celui qui n'a qu'un seul talent, un demi-talent même, un quart de talent. Ne laissez pas ceux qui prêchent la parole poser leurs mains sur le plus humble des ouvriers en lui disant « Vous devez travailler de cette façon ou ne pas travailler du tout. » Vous avez déjà entendu ce genre de choses? Ah non, non, tu travailles comme ça. Non, non, tu travailles avec l'Église. Je me rappelle quand j'étais dans l'Église Adventiste du septième jour, et on avait des réunions où il fallait se concerter pour faire une activité qui soit harmonieuse, mais le pasteur, il voulait rien faire de pieux. Il était complètement, je sais pas, contrôlé par une autre activité et on ne faisait rien. Mais c'est important quand même de respecter la discipline et l'organisation de l'Église. Ça, il ne faut pas que je donne une mauvaise impression ici. Dieu a donné naissance à ce principe d'organisation et des disciplines, notamment par les écrits de James White. Et donc, c'est important de travailler de concert, mais ici, même dans le cadre de l'organisation, Dieu dit « Ne laissez pas ceux qui prêchent la parole poser leurs mains sur le plus humble des ouvriers en lui disant « Vous devez travailler de cette façon ou ne pas travailler du tout. » Même dans le contexte d'une organisation bien soudée, avec des membres qui sont consacrés, je dis vraiment dans l'idéal, dans le cadre idéal, eh bien, même dans ce contexte-là, Dieu dit « Bats les pattes, mes frères. » Laissez à chacun l'amplitude de possibilités qui lui est disponible à travers sa relation personnelle avec Dieu. Laissez chacun travailler dans sa propre sphère, avec sa propre armure, en faisant tout ce qu'il peut faire à son humble manière, même si c'est minuscule, même si vous n'avez qu'une moitié de talent, un tout petit talent. Le Seigneur dit et encourage en disant « Renforcez ses mains dans son travail ». Ce n'est pas le moment d'être contrôlé par le pharisaïsme. Laissez Dieu œuvrer à travers qui il veut. Il faut que le message se propage. Et là, je vais mettre les choses en perspective, hein, frères et sœurs. Je ne vais pas mentir. Il faut que le message se propage. Et là, vous êtes à la fin du message, vraiment la fin de la propagation du message. Hein, on n'a pas une grande récolte devant nous. Non, les champs ne sont pas blancs. Pas comme ils l'étaient quand la servante du Seigneur le disait. Hein, elle disait « Les champs sont blancs pour la récolte ». Oui, mais ça, c'était il y a plus d'un siècle, frères et sœurs. Non, donc, les champs ne sont plus blancs pour la récolte aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Mais ces principes que je viens de vous partager ici s'appliquent néanmoins. Cet égard que Dieu a envers la personne à qui il n'a donné qu'un seul talent s'applique néanmoins. Hein, Dieu est le vindicateur du pauvre et de l'opprimé. Et si vous vous sentez opprimé par votre manque de talent, alors, frères et sœurs, prenez courage. Parce que vous avez la possibilité d'atteindre des personnes que ceux qui ont 2 ou 5 talents ne peuvent t'approcher. Voilà, je voulais parler du... Vous aviez aussi la question de... « Qui est mon prochain ?» que le docteur de la loi avait posé à Jésus et qui reflétait aussi, comme la question de Caïn, une insoumission déjà présente aux exigences élevées de la loi de Dieu. Et je vous rappellerai ici juste que, à cette question « Qui est mon prochain ?» que le docteur de la loi avait présenté à Jésus pour se justifier lui-même, Jésus avait présenté la parabole du bon samaritain. Et je vous résume, hein, ça se trouve dans Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Il y a eu un prêtre qui est passé, un sacrificateur qui est passé sur le chemin alors qu'il y avait cet homme qui avait été laissé blessé et à moitié pour mort sur le chemin après s'être fait voler par des brigands. Et il y a un sacrificateur qui est passé sur le chemin et qui a vu la personne, mais il s'en est allé. Il a ignoré cet appel. Et ensuite, il y a ce lévite qui est passé en chemin. Il a aussi vu cette personne. Et comme nous le lisons dans les paraboles de Jésus, il savait ce qu'il devait faire. Mais ce n'était pas un devoir agréable. Et donc, il s'en est allé sur son chemin, en ignorant l'appel de son prochain. Et ensuite, vous avez, comme vous connaissez bien l'histoire, le bon samaritain qui, quand bien même il n'appartenait pas à l'Église, qui, quand bien même il ne professait pas une foi pure, était néanmoins, lui, réellement converti et a manifesté cette conversion en venant subvenir aux besoins de l'homme blessé. Et vous avez dans les paraboles de Jésus, à la page 335 et au paragraphe 1, cette déclaration qui nous est donnée. Le Samaritain avait accompli le commandement de point « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », démontrant ainsi qu'il était plus juste que ceux qui le méprisaient. Au péril de sa vie, il avait traité le blessé comme un frère. Ce Samaritain représente Christ. Notre Sauveur manifesta à notre égard un amour que l'amour de l'homme ne peut jamais égaler. Alors que nous étions blessés et agonisants, il eut pitié de nous. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à la mort, impuissant et désespéré. Il ne resta pas dans sa demeure sainte et heureuse, où il jouissait de l'affection des cohortes célestes. Il eut égard à notre grande détresse. Il se chargea de notre cause et identifia ses intérêts à ceux de l'humanité. Il mourut pour le salut de ses ennemis et il pria pour ses bourreaux. Faisant allusion à son exemple, il dit à ses disciples « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. » Et donc, vous savez, c'est les Juifs et les pharisiens, ils avaient, comme on le lit juste avant, j'aimerais quand même le lire parce que c'est ça, ça m'a vraiment parlé. Ça se trouve ici dans Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ à la page 495 au paragraphe 3. La question qu'il venait de poser le docteur de la loi, c'est « Et qui est mon prochain ?» Et je lis ici, en rapport direct avec cela, « Ce sujet soulevait des disputes sans fin parmi les Juifs. » C'est très très intéressant ça. Parce que vous voyez, quand vous commencez à être insoumis aux exigences de la parole de Dieu, eh bien, vous commencez à trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est impossible d'obéir. Et c'est exactement ce que ces Juifs faisaient en soulevant des disputes parmi eux. Pour réduire l'amplitude ou la largeur du spectre de l'obéissance requise à la loi de Dieu. Ce sujet de qui est mon prochain soulevait des disputes sans fin parmi les Juifs. Aucun doute dans leur esprit à propos des païens et des Samaritains. Ces gens-là étaient des étrangers et des ennemis. Donc ils pensaient, pour eux déjà, ils avaient décidé que ces personnes-là, ce n'était pas mon prochain. Donc ils avaient réduit l'amplitude des exigences de la loi de Dieu à cet égard-là. Et cela continue. Mais où fallait-il faire une distinction au sein de leur propre nation et parmi les diverses classes de la société ? Et maintenant, il s'apprêtait à réduire encore plus la nécessité d'obéir à la loi de Dieu, d'une telle sorte que leur compréhension de la loi de Dieu, c'était quelque chose de charnellement praticable. Mais ça n'avait rien à voir avec le commandement divin. Je continue. Qui devait être considéré comme le prochain par le prêtre, le rabbin, l'ancien? Ils passaient leur vie dans l'accomplissement d'un cycle de cérémonies destinées à les purifier. Ils prétendaient que le contact avec la foule ignorante et insouciante occasionnait une souillure difficile à enlever. L'impur devait-il être considéré comme le prochain? Cette fois encore, Jésus se refusa à toute polémique. Il ne voulut même pas dénoncer le fanatisme de ceux qui se préparaient à le condamner. Par une histoire toute simple, il fit à ses auditeurs un tableau si touchant de l'amour né du ciel que tous les cœurs en furent touchés et que le docteur de la loi lui-même dut confesser la vérité. Pour dissiper les ténèbres, il suffit de faire jaillir la lumière. Le moyen le plus efficace de combattre l'erreur, c'est de présenter la vérité. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui manifeste la difformité et l'état de péché du cœur égoïste. Vous comprenez la raison pour laquelle je lis cela? C'est que nous avons une fâcheuse tendance à restreindre et diminuer progressivement et systématiquement le sens de l'exigence de la loi de Dieu pour que nous puissions nous insérer dans notre être charnel dans cette obéissance ou dans notre idée de ce qu'est cette obéissance et de ce que cette obéissance implique. Et donc nous disons, bon, cette personne-là, elle ne veut pas entendre ce que j'ai à dire, donc ce n'est pas mon prochain. Et puis cette personne-là, bon, je ne sais pas trop parce que je ne la vois pas. Donc c'est comme si elle n'existe pas, donc elle n'est pas vraiment mon prochain, etc., etc. Je vous dis, ça n'a pas de fin. Et d'ailleurs, pour eux, cette dispute était sans fin, vous comprenez? Pour eux, la dispute de qui est mon prochain, à savoir de à quel point vraiment je dois aimer mon prochain comme moi-même, eh bien cette dispute-là était sans fin. Parce que aimer son prochain comme soi-même, ça voulait dire mettre à bas tout leur système de tradition et de superstition. Donc afin d'élever leur système de superstition et de tradition, il fallait absolument miner le fondement, la fondation de l'exigence simple, pure et élevée de la loi de Dieu, des 10 commandements. Et donc ici, je lis encore dans Jésus-Christ à la page 499, au paragraphe 1, ceci. De cette manière, la question « Qui est mon prochain ?» reçut une réponse définitive à travers le récit de cette histoire du bon samaritain, de cette manière-là. Christ montra que par le prochain, il ne faut pas entendre uniquement celui qui appartient à la même église ou à la même foi. Aucune distinction de race, de couleur ou de classe sociale ne peut être invoquée. Toute personne qui a besoin de notre aide est notre prochain. Notre prochain, c'est toute âme meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Vous voyez que plus vous donnez à la parole de Dieu son amplitude originelle et pure, et plus vous avez de place pour l'abnégation et pour le sacrifice et pour un amour qui demande tout votre cœur, toute votre âme et toute ma pensée. Donc voilà, frères et sœurs, j'aimerais conclure notre méditation par les paroles de 1 Jean chapitre 3 qui était notre lecture biblique. 1 Jean chapitre 3 verset 11. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Hein, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste tué son frère, il a montré l'esprit qui renie la loi de Dieu et qui renie tout particulièrement ici cette seconde table de la loi et les attentes strictes et profondes de cette loi vis-à-vis de nous pour ce qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ça sera pour vous et pour moi-même une bénédiction et que nous tiendrons à cœur cet enseignement, ces paroles, en nous rappelant que ce bon samaritain représente Jésus et que ce que nous ne ferions pas, que nous n'avons peut-être pas fait, probablement d'ailleurs, Jésus l'a fait pour nous. Peut-être que vous êtes déjà passé outre quelqu'un qui avait besoin de votre aide. Peut-être que vous saviez que Dieu vous appelait à venir en aide à cette personne, à parler des paroles réconfortantes à cette personne-là, à faire cette chose-là qui vous était désagréable mais qui était nécessaire et qui faisait partie de votre devoir. Eh bien, lorsque vous rappelez de cela, lorsque nous nous rappelons de notre manquement vis-à-vis de ces situations, eh bien, puissions-nous prendre à cœur que ce que nous n'avons pas fait aux autres, Jésus l'a fait pour nous, pour inspirer en nous l'amour qui fera que nous l'aimerons lui et que nous aimerons aussi notre prochain, qui est une âme meurtrie par l'adversaire, parce que quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide à nous souvenir et à mettre en pratique sa parole. C'est ma prière. Amen.